Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Je me place et je vous place sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Nous poursuivons nos enseignements sur la citoyenneté selon l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie. En 2002, Mgr Ricard, représentant alors la Conférence des évêques de France, disait « La démocratie est une chance offerte dont nul ne doit être exclu. La politique doit favoriser un débat serein autour du vivre ensemble, englobant non seulement la nation, mais aussi l'Europe, qu'il nous faut continuer à construire, et les pays les plus pauvres qui ont besoin de notre solidarité. » Mais dans un livre paru en octobre 2023, encore à traduire en français, le pape François raconte sa vie et revient sur les événements mondiaux qui ont changé l'histoire. Il écrit au contraire « Je crois que nous ne devons pas exporter notre démocratie vers d'autres pays. » La situation a-t-elle changé au cours de ces deux dernières décennies au point que ce qui pouvait paraître évident au début du troisième millénaire est aujourd'hui remis en question ? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, nous allons commencer par nous pencher sur les fondements de la démocratie pour savoir de quoi nous parlons exactement. Puis nous verrons comment le message de l'Évangile nous donne des repères solides pour savoir si ce qui est promu au nom de la démocratie est compatible ou non avec notre foi en Jésus-Christ. À titre de boutade, relevons la remarque faite en 1947 par Winston Churchill dans un discours à la Chambre des communes britanniques. « La démocratie, dit-il, est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres formes qui ont été essayées de temps à autre. » Cette remarque devrait encore pouvoir obtenir une majorité aujourd'hui. Churchill aimait à dire « Personne ne prétend que la démocratie est parfaite. » Alors pour commencer, qu'est-ce que la démocratie au juste ? Dans les leçons d'introduction à la science politique, Rémi Lefebvre la définit ainsi. L'étymologie du terme « démocratie » est grecque. « Démos », qui signifie « le peuple », et « kratein », le pouvoir. C'est donc un régime politique où, en première analyse, le peuple réuni exerce le pouvoir. La démocratie est apparue à Athènes. C'était alors une expérience politique originale, fondée sur la participation d'une proportion importante de citoyens au gouvernement de la cité. Mais depuis son invention grecque, la démocratie a connu de considérables évolutions. Non seulement la signification du concept a changé avec le temps, mais les institutions sur lesquelles repose la démocratie sont aujourd'hui radicalement différentes de la Grèce antique. À l'origine, la démocratie était comprise comme démocratie directe, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par lui-même. La démocratie directe, c'est l'une des spécificités du système politique suisse. Elle permet au peuple de se prononcer sur les décisions du Parlement fédéral et de proposer des modifications constitutionnelles. Les instruments de l'initiative populaire et aussi du référendum sont les pièces maîtresses de la démocratie directe. En Suisse, le peuple se voit accorder un droit de participation aux décisions politiques qui est substantiel à tous les niveaux. En plus du droit de vote, les citoyens suisses âgés de plus de 18 ans ont également le droit de se prononcer sur des questions de fond. Environ 4 fois par an, ils sont appelés aux urnes pour donner leur avis sur une quinzaine de sujets en moyenne. Mais en dehors de la Suisse, la démocratie est conçue aujourd'hui essentiellement sous la forme beaucoup plus limitée d'une démocratie représentative, c'est-à-dire d'un gouvernement du peuple par ses représentants. Si la démocratie est fondée sur l'idéal de participation éclairée du plus grand nombre aux affaires publiques, ces formes sont multiples. L'un des enjeux de la démocratie représentative est de savoir si les élus représentent effectivement leurs électeurs, non seulement au sens politique, mais aussi au sens sociologique. Que pense l'Église catholique de ce type de système politique ? L'encyclique de Saint Jean-Paul II, Santissimus Annus, renferme un jugement explicite et structuré sur la démocratie en son paragraphe 46. Je le cite. L'Église apprécie le système démocratique comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leur gouvernement ou de remplacer leur gouvernant de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun. Sur quoi se fonde ce jugement sur le droit de chaque citoyen à participer aux choix politiques dans son pays ? Pour le christianisme, tous les hommes sont égaux parce que chaque personne jouit de la même dignité en tant qu'image de Dieu, créée avec une âme rationnelle, ayant une même nature et la même origine, et appelée à la béatitude divine dans le Christ. Cette égalité est fondée sur la dignité de chaque personne devant Dieu. Cette dignité constitue la base de l'égalité radicale et de la fraternité entre tous les individus, indépendamment de leur race, nation, sexe, origine, culture ou classe. Le christianisme enseigne que toute forme de discrimination sociale ou culturelle basée sur le sexe, la race, la couleur, les conditions sociales, la langue ou la religion est incompatible avec le dessein de Dieu et doit être combattue et éradiquée. L'Épître aux Romains dit en effet « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. » L'encyclique de Jean-Paul II poursuit en disant que l'Église ne peut donc approuver la constitution de groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l'État au profit soit de leurs intérêts particuliers, soit à des fins idéologiques. Et dans sa théorie politique, saint Thomas d'Aquin dit notamment que le gouvernement doit être limité par la loi, afin que son orientation vers le bien commun soit garantie. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Un autre aspect fondateur de la pensée de saint Thomas d'Aquin est celle du droit naturel comme critère pour toute législation humaine, et cela comprend le droit à la résistance. Pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, puisqu'il est récent et bien documenté. Beaucoup parmi nous se souviennent comment en avril 1994, c'est-à-dire il y a juste 30 ans, tous les habitants d'Afrique du Sud accèdent pour la première fois de l'histoire à des élections générales multiraciales au suffrage universel. Et cela donne la victoire au Congrès national africain. Et avec Nelson Mandela, qui était le leader du mouvement de résistance à l'apartheid, qui devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Il faut se rappeler que, bien qu'il représente plus de 80% de la population en Afrique du Sud, les Noirs et les Métis ont été exclus de tout droit politique pendant tout le XXe siècle. Le régime de l'apartheid, qui prévalait entre 1948 et 1994, organisait la ségrégation raciale sous un gouvernement entièrement blanc. Il prévoyait que les Sud-Africains non blancs devaient vivre dans des zones séparées des blancs et utiliser des installations publiques également séparées. les églises chrétiennes ont joué un rôle non négligeable dans le combat mené contre l'apartheid. Monseigneur Denis Hurley, archevêque de Durban, qui fut à 31 ans le plus jeune archevêque du monde, a joué un rôle déterminant. Tout acquis au vu du pape Pie XI, il n'hésite pas à déclarer dès 1952 que la discrimination raciale est une offense à la dignité humaine. Il travaille sans relâche à convaincre ses pairs de la nécessité de s'engager contre l'apartheid. En 1957, en tant que président de la toute nouvelle conférence épiscopale d'Afrique australe, il persuade ses confrères évêques de condamner l'apartheid comme intrinsèquement mauvais. Une déclaration très forte si l'on considère que seul le communisme était condamné dans les mêmes termes à l'époque. Lorsque, en 1948, le Parti national arrive au pouvoir en Afrique du Sud, la politique de ségrégation à l'encontre des populations noires était déjà bien installée. Depuis la fin du XIXe siècle et surtout depuis 1913, le pays est aux mains des colons européens. La loi sur le droit à la terre des populations indigènes ne permet aux Noirs de posséder que 7% des terres. Monseigneur Hurley fait alors figure de précurseur. Son activité s'étend sur tous les fronts. Droit à l'éducation, mouvements syndicaux ouvriers, politique de la migration du travail, combat contre les discriminations raciales, voire objection de conscience, ou même désobéissance civile. Le net durcissement du régime à l'égard des populations noires et la militarisation progressive du pays, mais aussi les travaux du Concile Vatican II auxquels l'archevêque participe, l'aideront à convaincre peu à peu ses pairs sud-africains que l'Église ne peut se satisfaire de sa seule mission spirituelle et qu'elle se doit de participer au changement temporel souhaité par l'immense majorité de la population noire. Les émeutes de Soweto en juin 1976, qui se soldent par 150 morts et le décès en prison de l'un des organisateurs de ces manifestations, marquent un tournant dans l'engagement des églises sud-africaines. Et aux côtés de Mgr Hurley, qui demande à toutes les églises de s'unir pour prévenir une nouvelle explosion de violence, on trouve désormais des catholiques, mais aussi des méthodistes, des luthériens, des presbytériens et des anglicans, dont l'archevêque anglican Desmond Tutu, qui recevra plus tard le prix Nobel de la paix. Ces émeutes déborderont largement le seul cadre sud-africain. Le monde entier prend brutalement conscience de la réalité de l'apartheid. Au siège des Nations Unies à New York, de plus en plus de voix s'élèvent pour condamner le régime de Pretoria et demander des sanctions économiques. En France, des groupes de chrétiens se mobilisent. Attaqués de l'intérieur comme de l'extérieur, le régime de l'apartheid finira par se fissurer au début des années 1990 pour finalement s'écrouler puis disparaître le 27 avril 1994 lorsque le pays connaîtra ses premières élections multiraciales et l'élection de Nelson Mandela, premier président noir d'une Afrique du Sud désormais rebaptisée la nation arc-en-ciel. Quelles leçons tirer de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud? Eh bien, la libération de l'Afrique du Sud de la tyrannie raciste et la réconciliation nationale qui a suivi sont le résultat de la lutte du peuple sud-africain et du soutien par la communauté internationale pendant près d'un demi-siècle. Alors que le régime de la minorité raciste a été remplacé par un gouvernement démocratique non racial, et que les principales lois raciales ont été abrogées, la tâche d'éliminer les vestiges de l'apartheid et ses effets a été confié à un nouveau gouvernement. Et à titre d'exemple, aux élections législatives de 2019, cette fois-ci, les candidats proviendront de 47 partis politiques différents, représentant toutes les composantes de la société sud-africaine. Alors, la victoire démocratique en Afrique du Sud représente une grande avancée pour le respect de la dignité humaine selon l'Évangile. Nous allons maintenant regarder quels sont les dangers qui peuvent être liés à la démocratie avant d'explorer les devoirs et les opportunités qu'elle présente pour les chrétiens. Alors que dans les années 1990, on annonçait un âge d'or pour les démocraties libérales, c'était après la chute du mur de Berlin, l'actualité nous ramène vers la part tragique de la politique et nous dévoile simultanément la fragilité des régimes démocratiques dans lesquels nous évoluons. Sorte d'ironie de l'histoire, plutôt que d'être le siècle de la victoire finale du libéralisme, notre époque est de plus en plus marquée par une crise de la démocratie. Raymond Aron est l'un des penseurs contemporains qui a le plus finement étudié les ressorts de la démocratie. Il propose une analyse fine de la démocratie moderne et des principales causes de sa corruption. Selon lui, la démocratie moderne pourrait se définir, je le cite, comme l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. Il faut alors que le pouvoir soit remis en jeu régulièrement et que l'on accède et que l'on accepte, pardon, l'alternance et la légitimité des concurrents qui cherchent à occuper les postes de gouvernance. Alors que Montesquieu faisait de la vertu, le principe de la démocratie, Raymond Aron voit dans le compromis le principe de toute société démocratique moderne. Selon ce dernier, les idéaux démocratiques ont certes une importance capitale, mais ils servent de motif, pour ne pas dire d'alibi, aux agents qui s'agitent dans la compétition. Ainsi, si les hommes au pouvoir cherchent le compromis à tout prix, même avec des groupes ou des partis qui sont hostiles à la démocratie et à ses valeurs, le régime risque de basculer en raison d'une transformation du compromis en compromission. Revenons à ce que nous disait encore Jean-Paul II dans son encyclique « Centesimus Annus ». Une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. L'Épître aux Romains nous dit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Comme vous l'avez compris, la démocratie libérale dans laquelle nous vivons comporte donc des dangers. Quels sont-ils? J'en relèverai trois risques. Le premier serait de considérer que le pluralisme éthique est une condition de la démocratie. Le deuxième risque, ce serait d'exiger des législateurs qu'ils formulent des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle. Et enfin, le troisième risque serait d'exclure de la politique les chrétiens qui souhaitent vivre en harmonie avec leur conscience. Alors, reprenons chacun de ces risques. Le premier, le pluralisme éthique. Eh bien, c'est quand on estime qu'il n'existe pas de critères objectifs et universels pour établir le fondement et la hiérarchie correcte des valeurs. Et donc, puisque toutes les options se valent, certains citoyens revendiquent une complète autonomie pour leurs choix moraux. Ils jouent sur une interprétation erronée de la tolérance. À ce propos, l'Église identifie le relativisme éthique comme l'un des risques majeurs pour les démocraties actuelles. Deuxième risque, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix. Ils formulent donc des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une valeur égale. Or, il existe une loi naturelle qui est inscrite au cœur de tout homme, qu'il soit croyant ou non croyant, et cette loi lui dicte de faire le bien et d'éviter le mal. Le prophète Jérémie dit « Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire, chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. » Et l'Épître aux Romains précise « Quand des païens qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur et leur conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s'approuvent les uns les autres. L'Église nous dit qu'il n'est pas possible de passer sous silence les graves dangers vers lesquels certaines tendances culturelles voudraient orienter les législations et par voie de conséquence les comportements des futures générations. Dans son audience générale du 16 juin 2010, le pape Benoît XVI disait « Lorsque la loi naturelle et la responsabilité qu'elle implique sont niées, on ouvre de façon dramatique la voie au relativisme éthique sur le plan individuel et au totalitarisme de l'État sur le plan politique. La défense des droits universels de l'homme et l'affirmation de la valeur absolue de la dignité de la personne humaine présuppose un fondement. Ce fondement n'est-il pas la loi naturelle avec les valeurs non négociables qu'elle indique? Troisième danger, troisième risque, les chrétiens ont donc le devoir moral de vivre en harmonie avec leur conscience. Or, on entend parfois dire que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité et qui lui donnent une ferme adhésion ne sont pas dignes de confiance du point de vue démocratique, parce qu'ils n'acceptent pas que la vérité soit déterminée par la majorité ou bien qu'elle diffère selon les différents équilibres politiques. Pourtant, si quelqu'un refusait aux chrétiens le droit de vivre selon leur conscience, leur refusait le droit d'agir en politique conformément à leurs convictions sur le bien commun, ou bien en faisait une raison de les disqualifier politiquement, il risquerait de tomber lui-même dans une forme de laïcisme intolérant. Au nom de quoi pourrait-on refuser à la foi chrétienne non seulement toute valeur sur le plan politique et culturel, mais même la possibilité de définir une éthique naturelle? Ouvrir la voie à une anarchie morale représente-t-il une forme de pluralisme légitime? Cela ne représenterait-il pas plutôt le risque de domination du plus fort sur le plus faible? Alors, chers auditeurs de Radio Maria, quel est le rôle du chrétien dans un tel contexte? Eh bien, d'abord, ce serait une erreur de penser que parce que nos démocraties se sont éloignées des valeurs de l'Évangile, les disciples du Christ seraient condamnés à se retrancher dans un milieu protégé et à se désintéresser de la politique. Dans son encyclique sur les laïcs chrétiens, Saint Jean-Paul II leur disait « Dans l'existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles. D'un côté, la vie dite spirituelle avec ses valeurs et ses exigences, et de l'autre, la vie dite profane avec la vie de famille, le travail, les rapports sociaux, l'engagement politique et les activités culturelles. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ porte ses fruits dans tous les domaines de l'existence et dans toutes ses activités. Tous les secteurs de la vie laïque, en effet, rentrent dans le dessein de Dieu. Dieu veut que la charité de Jésus-Christ se révèle et se réalise dans ces lieux historiques, à la gloire du Père et au service des frères. Toute activité, toute situation, tout engagement concret, tout cela est occasion providentielle pour un exercice continuel de la foi, de l'espérance et de la charité. Il y a donc au moins trois principes, chers auditeurs, qui peuvent guider le chrétien dans le domaine de la politique. Le premier principe, c'est de rechercher sincèrement la vérité morale. Les vérités morales concernent à la fois la vie sociale, la justice, la liberté, le respect de la vie et les autres droits de la personne. Certaines de ces vérités sont aussi enseignées par l'Église catholique, mais cela ne réduit en rien la légitimité civile, ni même la laïcité de l'engagement de ceux qui se reconnaissent en elle. En effet, la laïcité désigne en premier lieu l'attitude de celui qui respecte les vérités, procédant de la connaissance naturelle sur l'homme vivant en société, même si ces vérités sont également enseignées par une religion particulière, car la vérité est une. Même Simone de Beauvoir disait « La vérité est une, seule l'erreur est multiple ». D'où l'importance pour le chrétien de toujours perfectionner sa formation. Par exemple, en rejoignant des groupes d'études qui cherchent à appliquer la doctrine sociale de l'Église à un contexte particulier. Voici quelques exemples d'associations qui offrent aux chrétiens la possibilité d'approfondir leur formation morale. Le parcours Zachée, qui est un parcours de formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit son activité, et qui est destiné à tous ceux qui, en activité professionnelle ou non, cherchent une plus grande unité entre leur vie quotidienne et leur foi. Autre association, Alliance Vita, qui est une association du mouvement Pro-Vie en France. Elle se donne comme objectif de promouvoir la protection de la vie humaine et le respect de la dignité de toute personne. Sur Internet, elle propose gratuitement le cycle de formation bioéthique de l'Université de la Vie avec des questions de réflexion bien concrètes. Par exemple, la liberté, pourquoi faire? Ou bien, quelle est la place de l'humain face à la technique et à l'économie? Autre association, en fait non, c'est un lieu, le Collège des Bernardins à Paris, qui propose des formations et des débats de société avec beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet. Par exemple, comment reconnaître les erreurs de notre intelligence pour y remédier? Et à partir de 14 ans, y aurait-il une recette pour devenir un héros? Voilà, deuxième principe. Ne pas déléguer à d'autres l'engagement reçu de l'Évangile de Jésus-Christ. Il faut que la vérité sur l'homme et sur le monde puisse être annoncée et mise en pratique. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'Église enseigne qu'il n'existe pas d'authentique liberté sans vérité. Jean-Paul II a écrit « La vérité et la liberté vont de pair, ou bien elles périssent misérablement ensemble. Dans une société où la vérité n'est pas recherchée et où on ne recherche pas à l'atteindre, toute forme d'exercice authentique de la liberté est aussi affaiblie. Cela conduit à une attitude libertaire et à l'individualisme qui nuisent à la protection du bien de la personne et de la société entière. Il appartient donc aux chrétiens de promouvoir et de défendre la vérité sur l'homme et sur le monde par tous les moyens licites. Cela peut se réaliser de différentes manières, dans son travail, dans une association, dans sa famille, etc. Est-ce que parmi vous, certains se souviennent de cette air célèbre de Nabucco, chanté et réécrit par Nana Mouskouri ? Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. En juin 1984, cet air est devenu le chant de ralliement des partisans de la liberté de l'enseignement en France. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque, voici le contexte. En 1981, François Mitterrand est élu président de la République sur la base du programme commun élaboré par le Parti socialiste et le Parti communiste français. Alain Savary est alors choisi comme ministre de l'Éducation nationale. Il est chargé d'élaborer un projet de loi pour créer en France un grand service de l'éducation nationale qui soit public, unifié et laïque. Le projet, adopté en janvier 1984, est alors proposé à l'Assemblée nationale. Le but est de mettre fin à la distinction entre école privée et école publique. Mais les associations de parents de l'école libre réagissent très vivement et organisent de grandes manifestations, dont celle de Paris. Le 24 juin, entre 1 et 2 millions de Français défilent en convergeant vers la Bastille. Depuis les évêques jusqu'aux politiques, tous sont là pour défendre la liberté des parents de choisir l'école de leurs enfants. Aucun débordement n'est signalé, mais le 14 juillet, le président annonce le retrait de ce projet de loi. Le ministre de l'Éducation nationale et le premier ministre démissionnent. Troisième principe, participer à l'édification d'une culture inspirée de l'Évangile. La foi en Jésus-Christ, qui s'est présenté lui-même comme la voie, la vérité et la vie, nous demande de déployer tous nos efforts pour proposer à nouveau le patrimoine de valeurs et de contenu du catholicisme. Il est nécessaire et urgent de présenter le fruit de l'héritage spirituel, intellectuel et moral de l'Évangile en des termes culturels modernes. Il s'agit de travailler à traduire d'une façon claire et simple les arguments auxquels la raison peut consentir facilement. L'argumentation doit être rationnelle parce qu'elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, y compris aux non-croyants. L'engagement social des catholiques ne peut se limiter à une simple transformation des structures, car si à la base il n'y a pas une culture capable de recevoir les exigences qui découlent de la foi et de la morale, les transformations reposeront toujours sur des fondements fragiles. En France, nous avons un immense patrimoine architectural, en particulier religieux, auquel tout le monde est attaché. Il n'y a qu'à voir comment la population a réagi au moment de l'incendie de Notre-Dame. Il s'agit maintenant de faire vivre ce patrimoine, de le rendre vivant, de l'ouvrir au public et de l'utiliser comme un tremplin pour communiquer le message de la foi. Nous avons un héritage unique à faire connaître et à partager. Nous n'avons pas à avoir un complexe d'infériorité face à d'autres propositions, dont l'histoire récente a montré la faiblesse et même parfois l'échec radical. Les jeunes générations ont soif, très soif, de découvrir, d'apprendre, de comprendre. Il y a eu une rupture de transmission de l'histoire, des valeurs et du sens de la vie. La génération précédente a été prise de court par les transformations de la société et n'a pas su comment communiquer le patrimoine de la foi dans un contexte radicalement différent. Alors, si vous cherchez des idées, je vous invite à consulter le site internet de Nartex, Art Sacré Patrimoine Création. Nartex a pour mission d'assurer la présence de l'Église catholique en France dans le domaine de l'art et du patrimoine. Nartex participe à l'opération La Nuit des Églises. Depuis 2011, plus de 7000 chapelles, églises et cathédrales y ont participé. Pendant quelques jours chaque été, certaines églises restent ouvertes une partie de la nuit. Cela permet d'une part aux communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église qui souvent reste fermée. Et d'autre part, cela permet d'accueillir largement tous ceux qui se présentent, des artistes, des visiteurs, des curieux et des personnes qui s'interrogent, qui s'intéressent. En conclusion, je dirais que l'Évangile nous enseigne que la démocratie doit être fondée sur des valeurs morales objectives, telles que la dignité de chaque personne humaine, le respect des droits humains inaliénables et la recherche du bien commun comme critère de la vie politique. Ces valeurs sont essentielles pour assurer la stabilité et la légitimité de la démocratie. La participation des catholiques à la vie politique doit également se baser sur une juste compréhension de la personne humaine telle qu'elle est révélée par le Christ. Alors, avec la grâce de Dieu, n'ayons pas peur d'assumer la responsabilité qui nous est confiée pour faire vivre une démocratie qui soit respectueuse de toute personne humaine. Je vous donne maintenant rendez-vous, chers auditeurs de Radio Maria France, le mardi 23 avril à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la citoyenneté selon l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde.